Fond de noir, deuxième partie.
Oh ben voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon acolyte. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Voilà, donc on est parti bille en tête avec Jacques Ferrandez pour évoquer sa grande passion, l'Algérie. Et je crois qu'on n'a même pas donné l'éditeur de ce magnifique album Alger la Noire. Donc c'est chez Casterman. Donc je rappelle que c'est l'adaptation d'un livre de Maurice Attia. D'ailleurs, Maurice Attia a fait une suite avec le même personnage de Paco qu'on a évoqué avec Jacques Ferrandez. Donc cette suite s'appelle Pointe Rouge. Et puis on le retrouve aussi dans Paris Blues. Je vous conseille quand même les deux premiers, honnêtement. Voilà. Donc Jacques, on a dit qu'on faisait un thème sur l'Algérie. De quoi que tu vas bien nous causer?
Eh ben, de deux romans qui traitent aussi de la guerre d'Algérie, mais de façon assez différente. Toutes les deux intéressantes et avec une ressemblance, c'est que les deux mettent en scène des jeunes protagonistes. Le premier, c'est un roman de Lilian Batelot qui s'appelle Kabylie Twist, qui est publié aux éditions Gulfstream. Alors, ce roman est publié en fait dans une collection pour ados. Il s'adresse à un public, disons, d'une quinzaine d'années au moins, a priori, car la collection, en fait, a une vocation pédagogique. Mais en fait, il peut être lu, et je dirais même, il doit être lu par tout le monde, enfin, au moins à partir de 15 ans, et après, jusqu'à 77 et plus. Car on s'est bien rendu compte, en fait, en préparant un peu cette émission, que sur la guerre d'Algérie, et les faits qui sont survenus, en fait, il y a quand même pas mal de choses qui sont pas su, oublié ou pas raconté, ça fait déjà 50 ans, faut bien dire.
Et comme on disait avec Jacques Ferrandez, c'est vrai qu'on a le prisme de l'histoire, mais il y a encore des choses qui sont qui sont encore occultées, on va dire.
Voilà. Donc ce roman commence en 1960 et finit avec la fin de la guerre en 1962. C'est un roman polyphonique, comme il s'y est de dire de nos jours. En gros, donc, il est raconté par plusieurs narrateurs, dont le destin, l'histoire, va s'entrecroiser. Il y a Rick, qui est batteur, au moins au début, dans un groupe de Twist, dans le sud de la France. Un groupe promis un grand succès quand il est appelé Sous les drapeaux. Et Sous les drapeaux, c'était pour servir la France en Algérie, et précisément en Kabylie. Il y a Sylvie, sa copine, qui est la fille d'un riche entrepreneur. Elle se contente, du moins au début, de vivre, de rouler en Aston Martin, d'aimer son beau Rick. Mais quand il part, elle va tenter de le rejoindre de l'autre côté de la mer. De l'autre côté de la mer, il y a Najib, qui est un orphelin de la ville de Djeli, sur la côte algérienne, la côte kabyle. Il adore le cinéma, et aussi la fille de la libraire, qui est française. Et il va se laisser plus ou moins embrigader dans un harka. Un harka, c'est là où il y avait les harkis, c'est-à-dire ces supplétifs de l'armée française que l'on engageait pour faire des tâches pas forcément très délicates. Et le dernier personnage important, c'est Lopez, un tout jeune bachelier. Il vient d'être nommé inspecteur de police. À l'époque, il suffisait d'être bachelier pour être inspecteur de police dans cette ville de Djeli.
Maintenant, ça n'a plus besoin du... Non, pardon.
Et ces existences, somme toute assez paisibles, vont être bouleversées par ces dernières parties de la guerre, avec les attentats aveugles, ou alors au contraire, des attentats extrêmement bien ciblés. Et on va découvrir tout au long du roman, ou se remémorer pour certains, les actions pas toujours très reluisantes du FLN et des militaires français, l'embrigadement puis l'abandon des harkis, les exactions de l'OAS, les beaux discours lâches et plutôt perfides de la Grande Zora. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la Grande Zora, c'était le surnom qu'on donnait en Algérie à Charles de Gaulle. Et Lilian Batelot, bien qu'il s'adresse à des jeunes, ne prend pas du tout ses enfants, ses lecteurs pour des gamins. Quand il raconte des scènes de torture, par exemple, si les séances ne sont pas racontées très explicitement, certaines ellipses valent bien des bonnes descriptions, mais on y est absolument dedans. Et il réussit, ce qui est vraiment très bien, qui nous embarque bien dans ce roman, c'est que il nous fait vivre les différents morceaux de vie de tous ces personnages, et finalement, on se sent très proche d'eux, chacun leur tour. Et même si le roman se veut didactique, en fait, c'est pas du tout une thèse, car en fait, il y a vraiment une intrigue qui maintient l'attention narrative tout au long du roman. Et il arrive même à réfléchir, car on peut se dire, mais nous, placés dans des conditions, de quel côté on aurait été, qu'est-ce qu'on aurait fait, C'est pas toujours évident si on se rappelle les pensées qu'on pouvait avoir quand on avait cet âge-là, donc entre 18 et 20 ans.
Et c'est pas une moindre des qualités que de faire se poser des questions.
Exactement.
À un lecteur.
Alors je voulais juste signaler que le flic Lopez, là, qui apparaît dans ce roman, donc tout jeune flic, on le retrouve dans trois des romans précédents de Lilian Batelot, qui s'appelait la trilogie Chichois Barraquette, qui se passait aux alentours de 7, et le flic là, Lopez avait pris du grade, et ben il y avait quelques rapports avec l'Algérie, du moins un peu plus tard, donc parce que quand les Français sont rentrés en Algérie, en France, ben voilà, ils ont eu aussi des histoires.
Deuxième roman
très différent. C'est un roman de Baruch Salamé qui s'appelle Une guerre de génie, de héros et de lâches, qui est publié aux éditions Rivage Frileur. Il raconte aussi un petit bout de la guerre d'Algérie à travers les yeux et par le récit d'un certain Serjoun Ben Bajou, qui est un garçon de bonne famille, selon ses propres dires. Sa grand-mère et ses parents sont, avant la guerre, des intellectuels d'obédience communiste. Le roman est en deux parties. La première se situe à Djelfa, dans le sud de l'Algérie, aux portes du désert. Serjoun, c'est un garçon très très intelligent. Il a 7 ans au début du roman et il va découvrir la vie, la révolution, la guerre évidemment, et les prémices de la guerre des clans des deux côtés, mais surtout du côté algérien, parce qu'en fait, lui, il est né là-bas et ses parents, ses grands-parents sont pour l'indépendance de l'Algérie. Bon, et la deuxième partie, en fait, se passe quelques années plus tard, en 62. Serjoun s'appelle désormais Serge, il a maintenant 12 ans, et il va être mêlé aux derniers jours de l'Algérie française et aussi aux premiers jours de cette Algérie algérienne,
indépendante,
démocratique et populaire, comme il disait à l'époque, et qui est assez vite décevante pour les militants indépendantistes, ou du moins certains. C'est un roman érudit, brillant, très très bien écrit, mais qui se lit vraiment, j'allais dire, presque comme un polar. C'est comme, du moins comme on dit dans certaines émissions de radio.
Pas la nôtre.
Et c'est pour ça que je l'ai dit comme ça. C'est vraiment, et c'est en même temps, c'est un roman en forme de leçon d'histoire, de leçon de civilisation et de leçon d'humanité. Tout en étant, puisque c'est un jeune homme, un roman d'initiation, un roman de jeunesse. Alors c'est pas du tout un thriller, bien qu'il soit publié dans la collection Rivage Thriller. Ne vous attendez pas du tout à un thriller. Mais par contre, eh ben, il nous raconte aussi les règlements de compte entre les différentes factions indépendantistes algériennes ou les exactions des fascistes de l'OAS. Alors le roman commence assez brillamment par un rapide historique de la conquête coloniale, comme ça qui nous permet exactement de nous rappeler tout ce dont on avait besoin de savoir pour comprendre la suite de façon du moins très succincte. La guerre d'indépendance, et là il raconte tout le temps l'histoire en fait des deux factions, les révolutionnaires qui voulaient créer une Algérie indépendante, mais multiconfessionnelle, multiculturelle, et surtout éloignée des multiconfessionnels et éloignée des militaires.
Et de la religion intégriste.
Mais malheureusement, en fait, ils ont eu besoin des militaires pour faire la guerre. Et ben les militaires.
Ça, c'est le plus dommage.
Et les militaires, le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont là, et ben pour les enlever, c'est pas toujours évident. Et ben on voit bien qu'est-ce qui est arrivé. Il raconte donc en fait la lutte entre les messalistes de Messali Hadj, qui était un pur produit de des communismes au sens le plus noble du terme, qui voulait voilà, mais peut-être un peu utopiste. Et il va nous raconter comment le FLN s'est débrouillé pour récupérer tout pour lui. Ou alors nous le remémorer pour ceux qui l'auront déjà entendu. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, racontées, on dirait presque de l'intérieur. Je peux lire juste une citation rapide qui explique peut-être le titre. C'est donc, elle est mise dans la bouche des révolutionnaires. Il faudrait accepter le constat amer qui dit que la révolution est semée par des génies, arrosé par le sang des héros et moissonné par des lâches. Et malheureusement, il s'avère qu'ils espéraient encore au début de l'histoire que ça soit pas comme ça, comptez, mais hélas.
Voilà, et en fait, cette citation montre qu'on est quand même en plein dans le roman noir.
Exactement, c'est tout à fait un roman noir. Et je voulais juste signaler que, rapidement, que tout comme pour Lilian Batelot, eh ben en fait, le flic Serjoun va devenir Serge Serfati une fois qu'il sera rentré en France.
Qu'on retrouve dans les précédents romans.
Il va devenir le flic des deux thrillers qui ont été publiés de Baruch Salamé aux éditions Rivage Thriller. Et là, qui sont vraiment des vrais thrillers, qui s'appellent Le Testament Syriaque et Arabian Thriller.
Thriller, justement.
Le nom se le porte bien, on ne peut pas en douter.
Deux grands romans à chaque fois. Voilà.
Donc c'est le genre de roman qu'on lit, qu'on prend grand plaisir à lire et qui nous fait sentir moins bête à la fin. Voilà, je m'arrête, je vois que tu me fais les gros yeux. Je parle
trop. Non, pas du tout. Non, moi je veux juste évoquer, parce que justement on va pas avoir le temps, on pourrait en faire une émission complète, un roman graphique magnifique. On a parlé, Jacques Ferrandez va adapter en bande dessinée le superbe texte de Albert Camus, L'étranger. Je rappelle qu'Albert Camus a longtemps vécu en Algérie. Ça se passe en Algérie aussi. Et c'est mis en image absolument magnifiquement par José Muñoz, qui d'habitude flirte plus avec l'Amérique du Sud qu'avec l'Algérie, mais en tout cas il s'est complètement coulé dans l'atmosphère de Albert Camus. Les dessins illustrent parfaitement les propos, la touffeur, la psychologie des personnages.
Et même le soleil dont parlait Jacques Ferrandez.
Voilà, c'est chez Futuropolis, chez Gallimard. Futuropolis qui a aussi fait, alors peut-être José Muñoz a participé, mais en tout cas il y a aussi une sorte de mise en image, de mise en scène du texte qui devient une espèce de long talking blues parce que c'est carrément mis comme un long poème.
Oui, le texte s'enroule parfois autour des dessins plutôt que le contraire, c'est assez...
Et il y a vraiment des dessins qui s'enroulent autour du texte.
C'est vraiment
comment avoir le dernier mot.
Iconographiquement, c'est extrêmement bien fait.
Voilà, je rappelle... accompagné des dessins de José Muñoz, L'étranger d'Albert Camus, chez Futuropolis. Et on retrouve Jacques Ferrandez en musique.
On retrouve Jacques Ferrandez en musique dans un groupe qu'il avait créé il y a quelques années qui s'appelait Mille Sabords Quintet. C'était un disque qui était publié avec une bande dessinée et dessinée par Jacques Ferrandez et un scénario de Philippe Razol, lequel Philippe Razol fait aussi les saxophones dans ce disque. Et on va écouter une composition de Jacques Ferrandez qui s'appelle Valse sans hésitation.
Et voilà, ici Jacques Ferrandez, non pas au crayon et au pinceau, mais à la contrebasse.
Et à la composition.
Voilà, on va changer complètement. Mais alors, je vous emmène très très loin de l'Algérie. Je vous emmène à la suite de certains chiens, puisque je vais vous parler d'un roman, lui aussi paru aux éditions Cirrose. Donc je dis lui aussi parce que, soi-disant pour des adolescents, mais c'est un texte qui raviront beaucoup d'adultes. Donc ça s'appelle Doglands. C'est de Tim Willox et, comme je viens de vous le dire, c'est aux éditions Cirrose. On suit cet auteur irlandais depuis pas mal d'années avec des textes très durs et mais brillantissimes comme Bad City Blues ou Green River. Et puis il y a La Religion qu'il a vraiment fait connaître en France aux éditions Sonatine.
Et dont la suite est promise pour bientôt.
Oui, on l'espère, parce que depuis le temps qu'on a abandonné nos deux hérons, on voudrait bien connaître la suite. Et là, on va avoir une forme très très différente au Doglands, mais on va retrouver les thèmes chers à Tim Willocks et puis surtout la même qualité d'écriture. Donc en gros, le personnage principal, c'est Fulgur, le brave en langage chien. Donc ce chien, il y a Kiva, sa mère, et ses trois sœurs qui sont nées d'une nuit d'amour passionnée entre Kiva, le lévrier qui gagne, là, je ne sais pas s'il y a un féminin pour lévrier, qui gagne toutes les courses sur les cynodromes, et puis le chien-loup Argal, amateur de liberté. En gros, début de l'histoire, métaphore d'un camp de concentration, l'élevage est tenu par Dead Bones, un homme sans pitié qui tue les plus faibles et ne s'occupe que des chiens qui peut lui rapporter, donc Kiva. Bâtard, Fulgur, donc, est promis à l'extermination. Mais grâce à son intelligence et sa force, héritée de ses parents et surtout de Argal, il va parvenir à s'échapper. Il va alors errer à la recherche des Doglands, le pays rêvé des chiens. D'abord accueilli comme chien domestique, son esprit rebelle, en gros Easy Rider mais canin, lui fait choisir l'aventure. Mais évidemment, il devra subir épreuves et souffrances pour retrouver sa mère. Évidemment, ce livre est un conte, mais l'idée que le personnage principal soit un chien permet à l'auteur une critique féroce et originale de l'espèce humaine. Ceci dit, c'est vrai dans beaucoup de contes aussi. Métaphore des dictatures, du nazisme, des salauds de tous bords, mais aussi des résistants. Petit à petit, Fulgur va réunir une bande, une petite armée de chiens de tout poil. On dira à peu près la bande de Robin des Bois. C'est un roman d'aventure, donc, picaresque. Roman d'initiation, donc, chez Syros. Si on a aimé les précédents, on va être un peu étonné de ce texte, mais vraiment, ça vaut le coup de découvrir cette histoire à la fois onirique et violente, hyper réaliste et pourtant totalement inventée. Et puis cette nature sauvage que ne renierait pas Taureau. J'ai oublié de préciser que la traduction est de Benjamin Legrand.
Comme pour la plupart, comme pour tous, je crois, les romans de Tim Willocks.
Et il me reste juste quelques secondes parce que je voudrais aussi évoquer un autre texte de Tim Willocks qui est aussi traduit par Benjamin Legrand aux éditions Alia, un court texte d'environ 80 pages avec une introduction de Nathalie Benat, qui est d'ailleurs sa directrice de collection chez Syros. Ce court texte s'appelle donc « La cavale de Billy Micklehurst », j'espère que je prononce bien, et je vous conseille d'en acheter plusieurs parce qu'à 3,10€ l'album, le petit livre, c'est une véritable aubaine et merveille. En gros, les derniers jours d'un clochard, une espèce de fulgurance, un homme ordinaire qu'on aurait naguère appelé un fou. Et comme Willocks est psychiatre, c'est très intéressant de voir comment transformer un cas somme toute réel en un texte littéraire. Décidément, cet écrivain a beaucoup de talent.
Et puis c'est peut-être deux livres, mais si vous ne les connaissez pas, pour entrer dans sa littérature, puisqu'ils sont plus courts que ses romans.
Tout à fait. Donc on n'a pas le temps de rappeler tous les livres dont on a parlé ce soir, mais vous les retrouvez sur notre site, Jacques.
Et ceux de Jacques Ferrandez sont publiés de toute façon tous chez Casterman. Et notre site, c'est ondenoir.com.
Bye bye, à bientôt. Thank you.